Chapitre 4. Il entra dans une rue large et tirée au cordeau, où quelques boutiques étaient encore ouvertes. À la clarté d'une lanterne d'auberge, il aperçut un aigle noir peint sur l'enseigne. « Encore un aigle noir, dit-il, allons à la première venue. » Et il entra. « Garçon, une chambre et un bon lit, s'écria-t-il dès le vestibule. Un garçon taciturne, endormi sous son bonnet blanc et dans un état visible de somnambulisme, l'introduisit dans une chambre, déposa un flambeau sur la table et sortit. « Eh voilà, dit Monsieur Chay, comment on reçoit les voyageurs lorsqu'ils n'ont pas un train de grand seigneur, et moi je n'ai pas un paquet. » Ayant fait cette réflexion mélancolique, il se déshabilla voluptueusement et se plongea dans un lit comme dans un bain frais. Ce sommeil, léger comme le bagage de l'artiste, paya l'arriéré de toutes les insomnies. Il fut calme, riant et brodé de songes d'ivoire. Le soleil et M. Chay se levèrent en même temps, comme deux amis endormis sur la même couche. M. Chay sonna. Le garçon monta et vit tomber sur la table un écu de 5 francs avec cette phrase « Voilà pour la chambre et pour vous !» Et le chasseur descendit lentement l'escalier, le fusil sous le bras dans son fourreau. « Peste !» dit M. Chay, « mais il y a de belles rues à Toulon. Si j'avais le temps, j'irais volontiers visiter l'arsenal. Mais l'essentiel, c'est de partir pour Marseille et d'y arriver avant la nuit. » Il s'approcha d'un groupe de cochers stationnés avec leur voiture sur une grande place et leur demanda s'ils faisaient la route de Marseille. Un de ces cochers répondit affirmativement par un signe de tête et montra sa voiture dans laquelle 3 voyageurs déjà placés attendaient le 4e. « On peut partir à l'instant ?» demanda M. Chay. Le cocher monta sur son siège en répondant affirmativement une seconde fois. « Ah !» dit M. Chay en s'incrustant dans son coin numéro 4. « Voici la veine de malheur qui me revient. Tout me réussit depuis hier. Oh, pff, il était temps !» Et il salua poliment ses 3 compagnons du voyage, lesquels étaient fort silencieux. La voiture était partie au grand galop. Monsieur Chay se désespérait fort de ce silence morne qui attristait la voiture. Il avait déjà fait quelques tentatives pour ouvrir une conversation. Il disait « Oh, nous marchons bon train !» ou bien « Oh, la journée est superbe !» ou « Il vaut mieux être ici que sur mer !» Toutes ces exclamations tombaient dans le vide. Il fallait procéder plus directement. S'adressant à son voisin, M. Chay lui dit « Savez-vous, monsieur, si nous arriverons de bonne heure ?»« Allez, 23 !» répondit le voisin. « Ah, allez, 23, monsieur est italien. Signor italiano. Signor si. De Nice, de Firenze, Florence. De Florence, diable, vous êtes bien éloigné de votre pays. » Et vous, monsieur, pardon, il me semble que je vous ai vu quelque part. N'êtes-vous pas de Marseille? Signor no di Livorno. Ah, vous êtes de Livourne. Je ne connais pas Livourne. Le 4e voyageur prit la parole et dit « Io sono di Pisa ». Ah, s'écria monsieur Chay riant. Voilà qui est singulier, 3 Italiens et 1 Français. « Je parle un peu le français, » dit le voyageur de Pise. « Tant mieux, » répondit M. Chay. « Je comprends l'italien, moi, mais je ne le parle pas. Monsieur, si je puis vous être de quelque utilité à Marseille, vous pouvez disposer de moi. Vous êtes bien honnête. C'est que je me mets à votre place. En pays étranger, on est souvent bien embarrassé. Vous ne connaissez pas Marseille. » « Non, monsieur. »« Ah, vous verrez une belle ville. »« Oh, c'est beaucoup mieux que Toulon. »« Vous allez à Marseille pour affaires de commerce? À Marseille, non, je vais à Florence. Bon, j'entends, vous allez embarquer à Marseille pour Florence. Non, non, je vais à Florence. Mais par voie de mer? Non, par terre. Vous craignez la mer? Non. À cause des Anglais, peut-être. Les Anglais, je vous comprends pas bien. Je vous dis que je vais à Florence avec ces deux messieurs. Ah, oui, ces deux messieurs vont à Florence aussi. Il vous faudra bien 10 jours de route. Oh, le Français aime toujours à rire. 10 jours, mais nous espérons bien arriver ce soir. À Florence? Mais oui. Avec cette voiture, dit Monsieur Chey ébahi. Oui, avec cette voiture. En passant par Marseille. Eh, que diavolo, Marsiglia! Mais d'où venez-vous à présent? De Livourne, comme vous. Moi, j'arrive de Livourne? S'écria Monsieur Chey avec un accent inouï. Eh, hey, diavolo, comment appelez-vous la ville que nous avons quittée ce matin? Ben, Toulon? C'est bien à Toulon que j'ai débarqué hier soir. Le pisan et ses deux compatriotes poussèrent un prodigieux éclat de rire. Monsieur Chey les regardait avec des yeux vitrés. Un instant, cria Monsieur Chey. Dîner, cocher, conducteur, est-ce que j'aurais pris une voiture pour une autre, conducteur? Le conducteur arrêta les chevaux, descendit du siège et parut à la portière. Mais où me menez-vous? Lui dit Monsieur Chey. Dove andate? Dove camminate? Monteaneas? Eh, à Firenze, répondit le conducteur. À Florence? Mais vous moquez-vous de moi? Oh, descendez-moi ici, là, à ce village. Je crois que c'est le Bosset. Tenez, voilà 5 francs. J'irai à Marseille à pied. Je l'ai encore échappé belle, dit le chasseur en ouvrant la porte d'un cabaret. Garçon, de la bière et de l'eau. Une jeune et fraîche fille arriva, le sourire à la bouche, en disant: Noce birra. Mais ils sont tous italiens ici, dit Monsieur Chey. Mais comment appelez-vous ce village? Il nomen dit quel villaggio? Pantedera? Ah, ce n'est pas le Bosset? Pantedera? Mais je n'ai jamais entendu parler de ce village-là. Et après Pantedera, che si trova? Le Bosset? Dopo Pantedera, Empoli. E dopo Empoli, le Bosset? No, Firenze. Monsieur Chey laissa tomber ses deux mains à plat sur la table et sa langue fut paralysée. Il lui fallut un quart d'heure pour reprendre ses sens. Un verre d'eau-de-vie lui rendit quelque peu de force. Il sortit pour examiner la localité. Quelques soldats d'un régiment français se promenaient sur la place du village. Monsieur Chey crut devoir s'adresser à ses compatriotes pour éclaircir ses doutes, car il lui en coûtait tant de se croire si loin de son pays qu'il lui fallait la démonstration la plus claire, la plus précise, la plus évidente pour se livrer au désespoir. Camarade, dit-il au militaire, vous voyez un pauvre Français garé dans sa route. Quel est le nom de la ville la plus voisine? Livourne, répondit un sergent. Oh, mon Dieu, je m'en doutais. Et dites-moi maintenant, quelle est l'autre ville qui se trouve au bout de ce chemin? Florence? Ce nom arrêta court les questions sur les lèvres de l'artiste. Le militaire attendit un instant, puis voyant qu'on ne lui parlait plus, voilà ce que vous voulez, dit-il. Oui, sergent. La statue de sel sur la grande route de Sodome n'était pas plus immobile que M. Chey sur le grand chemin toscan. À l'éclair qui jaillit longtemps auprès de ses yeux d'artiste, on avait deviné qu'une détermination énergique venait d'être prise et qu'elle allait s'exécuter. « Oui, disait M. Cher, marchant vers la porte du village, oui. Oh, il faut en finir avec la vie. Chastre infernal !» Chapitre 5. Et quand il fut dans les champs, sur la route de Florence, il dépouilla son fusil de son fourreau de bas à serge grise, fit couler une cartouche à balle dans le canon, et demandant pardon à Dieu du crime qu'il allait commettre, il appuya son front sur l'orifice du fusil. Son acte de contrition, prononcé en latin, se termina par cette exclamation « Et pour un chastre !» Il cherchait la détente du bout d'une orteil lorsqu'un bruit de pas sur la chaussée suspendit l'exécution. Deux jeunes gens passaient et l'un d'eux, remarquant M. Clay arrêté un fusil à la main sur les rives fleuries de l'Hera, s'approcha de lui et lui dit avec un accent français « Dove sono le ravine del Tempio Etrusco ?» M. Chey lui répondit brusquement en provençal « En avant de mandai, pastredaski, allez le demander au berger de là-bas. » Le jeune voyageur traduisit fièrement ainsi la réponse à son compagnon. « En avant, à main droite, à trois pas d'ici. » Et il écrivit sur son album cette observation judicieuse. Le paysan de la Toscane aime passionnément la chasse. Il parle un italien rude et guttural, et il affecte une certaine brusquerie envers les étrangers, soit que la domination française lui soit onéreuse, soit que son caractère agreste soit dépouillé de cette urbanité toscane si renommée dans l'univers. Pendant que le jeune Français écrivait ces lignes, M. Chey entendait un léger bruit d'ailes dans les roseaux et les plantes aquatiques du rivage. Un instant après, il visait une poule d'eau et faisait feu. L'oiseau tomba dans un courant latéral de la petite rivière. Le chasseur bondit sur les touffes de joncs et saisit sa proie flottante. « Ah, la balle! Ah, la balle !» criait-il. Et son front rayonnait d'orgueil. En rechargeant son fusil, il s'adressa une réflexion excitante. « Mais ces pays, dit-il, sont des nids de poules d'eau. Allez en avant, mon garçon !» Et on le vit allonger ses pas dans les belles allées routières où l'ormeau se marie à la vigne d'après le procédé virgilien. Bientôt, il entra dans cette riante vallée si chère aux rêveries d'Alfieri, la vallée de l'Arno, agreste et voluptueuse dans ses contours de collines, si gaie avec ses villas aux persiennes vertes, si fraîche avec son fleuve aux ondes bleues et lascives. Notre chasseur, porté par son naturel à la contemplation, tomba dans une douce extase. Il embrassa la vallée dans la personne du premier arbre qu'il rencontra et rougit de son suicide avorté. Et il s'abandonnait à la contemplation du beau paysage avec cette étourderie d'artiste qui passe du désespoir à la gaieté. Il fredonnait les airs d'opéra de l'époque, tirait un coup de fusil tous les quarts d'heure, tuant ou manquant l'oiseau avec un égal plaisir, ravi enfin d'être dans un monde nouveau et bénissant le chastre qui lui avait fait cette douce félicité. À la nuit close, il arrivait à Florence et entrait à l'hôtel de l'Aigle Noir, Bononi Santi. Il appela le cameriere et lui donna généreusement 15 pièces de gibier qu'il avait abattues dans le Val d'Arno. Ce garçon de l'Aigle Noir était un ancien soldat français mis hors de combat. « Ah, il paraît, dit-il à M. Chey, que vous êtes un habile chasseur. » Je m'en vante, répondit l'artiste. Eh bien, vous êtes dans un bon pays de chasse. Si vous ne craignez pas la fatigue, comme je le crois, vous devriez faire quelques promenades dans les montagnes là-bas, du côté de Poljibonsi et de Sienne. On y tue ce qu'on veut. Ah, fit Monsieur Shea. Oui, monsieur, répondit l'aubergiste, il y a des cailles, des grives, des râles, des perdreaux. Peste, bon pays. J'y ai même tué des chastres, moi. Vous y avez tué des chastres? 100 fois? Oh, demain matin, je pars pour... Comment avez-vous dit? Poljibonsi. Oui, vous m'écrirez ce nom sur du papier et vous viendrez me mettre sur le chemin, n'est-ce pas? Volontiers. À l'aube, Monsieur Shea, debout et armé, demanda la carte à payer. Le cameriere lui répondit au nom de l'aubergiste qu'il n'y avait rien à payer, qu'on le remerciait beaucoup de son cadeau. Bien, dit Monsieur Shea à part, mais je peux aller au bout du monde ainsi, pourvu que je trouve du gibier à donner aux aubergistes. Ha, bien imaginé, allons. Le voilà sur la route de Poljibonsi et des Apennins. Il arriva ce soir trop fort tard à Sienne, chargé de gibier, et s'arrêta au milieu de la grande rue qui traverse la ville à l'auberge de l'Aigle Noir. L'artiste offrit encore libéralement son trophée de chasse au cameriere, qui lui servit en retour un excellent souper, lui donna une superbe chambre ornée du portrait de Sainte Catherine de Sienne, et l'accompagna le lendemain sur la route de Torinieri. Cette méthode économique de voyage centupla l'ardeur de l'artiste. Il sillonna d'une longue traînée de sang les plaines tristes de Torinieri, les vallons marécageux de Ricolci, les arêtes volcaniques de Radicofani, les rives torrentielles de la Palia, les antiques domaines de Porsenna devant Pontecentino, les bruyères d'Acqua Perdente, les grèves du lac de Bolsena, les vignobles du Monte Fiascone, le désert immense qui mène à Viterbe, la forêt assassine qui part de Viterbe et monte au nu et descend au lac de Vico, l'épinette de Roneiglione et la prairie circulaire de Baccano et les landes monotones de la Storta. En 5 jours, il avait lentement parcouru cette chaîne des Apennins. Un soir, vers les 9 heures, il entra dans une ville inconnue et sans réverbère. Il était fatigué, l'infatigable chasseur. À l'angle d'une place, il avisa un café et entra pour se reposer un instant. On parlait français à côté de lui, dans un groupe d'habitués qui buvaient des verres d'eau. « Écoutez-moi, dit Monsieur Shea au plus avenant des causeurs, « pouvez-vous avoir la bonté de me dire le nom de cette ville ?»« Mais quelle ville ?» dit le causeur. Ben, « cette ville où je suis arrivé, celle-ci. Ah, »« Vous voulez rire, monsieur ?»« Non, du tout, sérieusement. »« Eh bien, vous êtes à Rome ?»« Sainte Vierge, je suis à Rome ?» Oh, indiquez-moi une auberge là-bas, tout près. Traversez le Montecitorio, demandez la place Saint-Augustin et l'auberge de la Torretta. Vous serez bien. 1000 remerciements, monsieur. Monsieur Shea s'installa dans une petite chambre de la Torretta, se fit servir un brodo saupoudré de fromage parmesan qui n'était pas né à Parme, et dormit de ce sommeil que la légende attribue aux 7 dormants, ses patrons du sommeil. Pendant qu'il dormait, une certaine agitation se manifestait dans le quartier transtévérin. La police française redoutait un mouvement populaire semblable à celui qui avait éclaté quelques années auparavant contre nos autorités républicaines à Rome. Des conspirateurs avaient été vus dans les hautes herbes de l'Arc de Janus aiguisant des poignards sur une pierre du temple de Vesta. Le Capitole menaçait le Vatican du haut de sa tour, et le Vatican menaçait le concile de Napoléon. Ignorant de ce qui se passait dans la ville, et toujours debout avec l'aube, M. Chey prit son fusil et demanda le chemin de la campagne au cameriere de la Torretta. On lui répondit par un quadruple geste qui désignait les quatre points cardinaux. Notre chasseur entra dans la rue des Colonnari, traversa le pont Saint-Ange, le fusil sous le bras, et s'arrêta d'un air inquiet devant la citadelle qui fut le tombeau d'Adrien et qui était gardée en ce moment par un bataillon du 117e léger. Quoiqu'il ne fût pas encore dans la campagne, M. Jay s'en allait l'oreille au vent, comme s'il eût espéré trouver du gibier dans la ville même. Dans une touffe de saxifrage, de caprier et de marguerite qui flottait à la corniche du sépulcre impérial, M. Chey vit ou crut voir les joyeux ébats de deux chastres étourdis et provocateurs. Au moment où il inclinait sa joue droite sur son poignet droit, en étendant l'index pour parodier la position de l'arme, un commissaire de police nommé Gobet le saisit par le collet de son habit et lui dit « Je vous arrête au nom de l'empereur. »« Monsieur Asfouel, s'écria M. Chey en provençal, êtes-vous fou ?» Gobet désarma le chasseur et le conduisit brutalement au corps de garde de l'empereur Adrien. Ce fut l'affaire d'un instant. Dans son saisissement, M. Chey oublia le peu de français que, comme tout bon Marseillais de cette époque, il ne savait pas. Un commissaire de police italien lui fit subir un premier interrogatoire. « Tuo passaporte, birbante. »« Ah, si es un ordinaire de la Madrasse, » répondit M. Chey en provençal. « Venir de la Bastido, et j'ai des papiers. »« Forestiere, senza passaporte, et un capo di banda. »« Mais ti dio fada, que si un cassere, que mi truffi di tu. » « Sei un Catilina, ti conosco, alla prigione, subito. »« Maria de Bashim, se mi toques mai, ti garsi un bassaiu que ti verra verito le lumière. » M. Chey leva sa main par-dessus la tête pour mettre cette menace en exécution. Quatre soldats le saisirent et le plongèrent dans un cachot où furent déposés le 15 juillet 138 les urnes lacrymatoires qui renfermaient les larmes versées par les Romains à la nouvelle de la mort d'Adrien. Pendant 30 ans en prison, M. Chey soutint énergiquement, toujours en provençal, ses droits de citoyen français. Mais le chef du poste, sous-lieutenant au 17e léger et natif du Calvados, attesta sur l'honneur que ce bandit parlait une langue barbare, inconnu dans l'Empire français. Le tribunal permanent de Borgo Nuovo, institué pour faire fusiller les conspirateurs dans les 24 heures, se fit amener M. Chey. On le menaça de la torture s'il ne nommait pas ses complices et s'il ne parlait pas une langue humaine, comprise des juges ou des interprètes jurés. M. Chey allongea son poing vers les magistrats en s'écriant « Ma il faut l'homme Dieu me tirera par les patros d'un coeli bregan !»« Mais le bon Dieu ne me tirera-t-il pas des pattes de ces brigands ?» On aurait bien volontiers fusillé M. Chey derrière le cirque de Néron, mais l'espoir de découvrir des complices ne permit pas de brusquer le jugement et il eut les honneurs d'une séance régulière. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président fit donc intervenir dans la cause le savant Mezzofanti qui causait toutes les langues de l'univers et qui a personnifié en lui la tour de Babel. Le linguiste universel interrogea M. Chay en 52 langues et 47 idiomes. Mais tous les efforts furent vains. Alors, se retournant vers les juges, il leur dit, avec un accent de mélancolie profonde, « Cet homme est incompréhensible pour moi. C'est une tactique de conspirateur rusé, s'écria le grand prévôt impérial. Oh, nous la déjouerons. C'est notre vase des plus bestiari. Va me le dire à Roma. Si t'en trouves de bête que moi, va donc le dire à Rome. » Le savant Maestro Fanti, qui n'avait pas quitté des yeux le malheureux artiste, demanda la permission de soumettre au tribunal une remarque qui l'avait frappé. « Illustrissime seigneur, dit-il, ce conspirateur sans patrie et sans langue porte à sa boutonnière une plume de cet oiseau d'augure que Pline appelle l'oiseau des camps, castrorum avis, en français, chastre. Cette découverte sera peut-être aux yeux de la justice d'une grande utilité. » Le grand prévôt, remplissant les fonctions de procureur impérial, accueillit l'idée du savant romain par un sourire de triomphateur. La plume augurale devenait une nouvelle pièce de conviction. La parole fut donnée à l'accusateur public. Ce magistrat se leva et, lançant sur M. Chay un regard superbe d'indignation, il commença par cet exorde. « Jusque à quand, enfin, abuserez-vous de notre patience aux conspirateurs? Quoi, les sentinelles du 117e léger qui veillent sur le Campidoglio et dans la ville ne vous épouteront jamais dans vos coupables desseins ?» Passant ensuite au détail de l'accusation, il dit avec un accent terrible « Mais ce conspirateur appartient à cette armée de scélérats qui ont établi leur camp dans les gorges de l'Étrurie. In faucibus et loiriae. Leur signe de ralliement est une plume de chastre, l'oiseau d'augure de Caius Dilius. Et en cela, les conjurés d'aujourd'hui imitent les conjurés de Catilina, qui adoraient un aigle d'argent, Aquila Marganteam, et posaient à leur boutonnière une plume de cet oiseau. Ici, mes illustrissimes seigneurs, ajouta l'accusateur à sa péroraison, ici le crime est évident, palpable, clair comme la lumière du jour. L'accusé a été pris en flagrant délit. Il marchait, les armes à la main, à la tête d'une bande souterraine, pour enlever la citadelle et égorger les soldats du 117e léger. Fit via vi, rumpunt aditus, primosque trucidant. Oh, tant de forfaits méritent enfin un terrible châtiment, et nous appelons sur la tête du capocable, comme dit Cicéron, les foudres de Jupiter Stator et la colère des dieux infernaux. » Après un semblable réquisitoire, et en l'absence de tout avocat pour plaider la cause du malheureux chasseur provençal, le tribunal se retira dans la chambre du conseil. La délibération ne fut pas longue. Après quelques minutes, le tribunal rentra en séance. M. Chay était condamné à mort à l'unanimité. On le ramena au cachot d'Adrien. L'infortuné chasseur était dans un état physique et moral digne de pitié. Chapitre 7. Ces choses se passaient à Rome, sous le consulat de M. de Norvin, le célèbre historien de Napoléon. Quand la sentence de mort lui fut communiquée, M. de Norvin voulut, avant l'exécution, faire subir un dernier interrogatoire aux condamnés. On amena donc M. Chay au préfet impérial. M. de Norvin écrit non seulement fort bien des langues françaises et italiennes, mais il comprend aussi les divers idiomes de nos provinces méridionales. Il entendit parfaitement ce que lui disait le malheureux artiste. La bonne foi, la candeur, l'innocence du chasseur provençal éclatèrent bientôt dans ce nouveau tribunal. Il y eut sursis et instruction nouvelle, basée sur l'itinéraire de chasse fourni par le voyageur, et au bout de ces longueurs nécessaires, arriva à un inévitable acquittement. Monsieur de Norvin, que cette odyssée d'un artiste marseillais à la poursuite de l'oiseau augural avait fait sourire d'abord et puis rêver, s'intéressa vivement à Monsieur Chay et lui fit donner une bonne place dans l'administration. L'artiste chasseur est tranquillement resté à Rome jusqu'en 1814. À la paix, il vint reprendre son poste à Marseille, et depuis, campagnard sédentaire, célibataire de plus en plus joyeux, il laisse couler sa vie entre le violoncelle et le fusil à deux coups.